spécial rendez-vous du samedi chez Urban's Burger avec Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Jérémy, bonjour tout le monde.
Alors Jean-Baptiste, j'ai voulu te rencontrer un petit peu parce que j'ai l'impression que Urban's Burger se réaffirme un petit peu sur le marché français par rapport à ces dernières années où, je sais pas, alors dans les années 80, on avait vu Urban's Burger France qui faisait du AV César, qui avait quand même des jeux un petit peu qu'on aime beaucoup nous chez les joueurs. Et puis après, au moment, Urban's Burger a un peu disparu. Il y a un Super Meeple actuellement qui réédite Mexica, un jeu qui avait été Urban's Burger au début des années 2000 et qui est jamais arrivé sur le marché français. Et là, d'un coup, hop, vous êtes à nouveau un peu plus présent. On voit même sur votre stand du Strike, par exemple, qui était porté par Oya il y a 2 ans. D'où vous sentez que le marché change et vous revenez vraiment sur le marché du jeu. Comment tu vois ça?
Alors on va dire, on n'a pas vraiment quitté le marché du jeu. On s'est juste fait un petit peu plus discret parce qu'on avait une période qui était plus ou moins compliquée où on avait d'autres priorités. Du coup, faut savoir aussi que Urban's Burger, c'est du jeu historiquement. Hein. On a commencé au 19e siècle avec notre premier jeu qui était Voyage autour du monde, donc une adaptation de l'œuvre de Jules Verne. Donc historiquement, on est une entreprise de jeu. Mais par la suite, on a fait d'autres choses. On est à présent en loisirs créatifs, dont l'Arts and Craft. On nous connaît notamment en France par nos Pulse, nos jeux éducatifs, et plus récemment Tip Toy, donc le stylo électronique. La chose étant qu'on a une multiplicité d'activités qui fait qu'on peut pas toujours se concentrer sur tout à la fois. Et on revient en force, on essaye du moins. Ça s'est marqué par mon arrivée dans la team Ravensburger et on souhaite reconquérir ce qu'on avait laissé un petit peu plus de côté, un peu plus entre parenthèses, en revenant notamment sur Cannes depuis l'année dernière. Donc l'année dernière, on avait un petit stand de 50 mètres carrés parce qu'on s'était pris un petit peu en retard. Et cette année, on vient de manière un peu plus importante avec 125 mètres carrés, avec beaucoup plus d'animateurs, avec des jeux surdimensionnés, des choses comme ça, et aussi avec des jeux en avant-première. Donc on a des jeux qui vont sortir en septembre, qui sont des développements franco-français. Donc avec, à part pour un qui est d'un auteur allemand, des auteurs français et qui sont faits en développement en France, donc par moi-même, et qui sont adaptés, on va dire, à la tendance qu'on observe actuellement et qui vient de l'école à la française, j'ai envie d'appeler ça avec un grand F, de jeux un peu plus légers, un peu plus courts, qui se jouent rapidement, qui se comprennent en quelques minutes, et en fait on se prend pas forcément la tête avec des règles extrêmement compliquées et où on passe simplement un beau moment en famille ou entre amis. Donc là, on affirme ça cette année en sortant nos 4 nouveautés, dont 2 sont en avant-première à Cannes, dont l'une est Wuxing de Peter Defertil et Antoine Rio, qui est un jeu de rapidité où il faut arriver à associer des symboles sur les mains. Au-delà de ça, on a 5 petites variantes sur comment tourner autour de ce principe-là. Donc c'est très rapide, c'est très fun, on passe des moments assez importants. Et on a aussi en avant-première Démoniac, qui est un jeu d'ambiance à base de lettres, qui est extrêmement fun. Donc c'est de Nicolas Bourgoin, qui est un auteur de la Cale, donc qui est un auteur lyonnais qu'on connaît notamment pour Mimtou. Et c'est un jeu où on va devoir récupérer des lettres qui sont sur la table, des lettres qui vont être en rapport avec un thème donné. Par exemple, si le thème c'est chien. Bon, ok, je vais récupérer les lettres qu'il faut pour former niche, mais je vais taper sur la cloche pour avoir le droit de poser mon mot. Plus mon mot est long, plus je vais gagner de points, bien sûr. Mais comme j'ai dit niche, j'aurais pu dire lèche, et j'aurais pu dire laisse, j'aurais pu dire le nom de mon chien, hein, j'aurais pu dire aussi crotte, hein, pour crotte de chien, ou fusil, pour chien de fusil, mais ou alors Roger, c'est mon oncle qui a ses chiens. Donc on arrive du nouveau avec ce genre de petit jeu, hein, un peu fun, pour répondre, pour dire qu'on est là. On va faire de plus en plus de choses, en plus des salons, on va retravailler du nouveau avec les ludothèques, les bars à jeux, etc., pour vous remontrer à quel point on vous aime et à quel point on a envie d'être avec vous.
Ok, bah dis donc, c'est une bonne réponse. Du coup, effectivement, on voit que Ravensburger va beaucoup plus loin. Petite question, du coup, par rapport entre Ravensburger France et Ravensburger Allemagne. Est-ce qu'il y a un lien à un moment? Parce que là, tu sors des jeux qui sont, tu disais, presque franco-français. Est-ce qu'il y a une chance qu'ils soient portés sur Ravensburger Allemagne? Est-ce que les deux éditeurs fonctionnent complètement indépendamment? Et puis, à l'inverse, on voit que, par exemple, des jeux de cartes comme Linko arrivent aussi maintenant sur le marché français, alors qu'ils viennent de Ravensburger Allemagne. Comment vous vous êtes situé dans tout ça?
Alors historiquement, ce qui se passait, c'est qu'on faisait de la localisation de jeux allemands. Donc on a toute une équipe, une structure allemande. Il faut savoir que contrairement à un certain nombre d'éditeurs, on est aussi industriel. Donc on a nos propres usines, on a tous nos services de R&D chez nous, ce qui fait qu'on a été précurseur sur un certain nombre de jeux électroniques. Donc oui, on importait des jeux type des jeux de cartes, ou alors pour les jeux enfants du Panic Cafard, ou des jeux avec de l'électronique embarquée comme Attrape Fantôme. Et en fait, on fonctionne de cette manière-là, dans ce sens, on continue à faire la localisation, et on est aussi en concertation avec l'Allemagne quand on crée des contenus originaux. Donc bien sûr, quand on arrive avec un jeu qui va être sur la wishlist française, on va voir directement nos homologues allemands pour leur dire qu'est-ce que vous pensez de ce jeu. Ils vont nous assister à différentes étapes du développement pour nous donner leur avis sur la mécanique, sur l'ergonomie, sur le matériel, bien sûr. Et fait historique, effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a certains jeux qu'on va sortir cette année qui vont être repris par l'Allemagne l'année prochaine. Donc, ils ont beaucoup aimé ce qu'on a fait dessus. Ce qu'ils ont fait aussi dessus, bien sûr, parce que c'est un travail d'équipe. Et on marche en synergie comme ça. Ça allait dans un sens Allemagne-France pendant un temps, et maintenant ça va aussi dans le sens France-Allemagne.
Ok, effectivement, c'est la tendance globale du marché. Actuellement, la France, on est en France, donc peut-être qu'on a une vision un peu déformée, mais on a quand même l'impression qu'actuellement, on tire un peu une nouvelle tendance de jeu. Tu as sorti des boîtes pour me présenter, je pense, un petit peu les nouveautés. C'est peut-être tu me parles de Wixing par exemple. Il y a Dawak là que je vois, qui est une nouveauté pour la fin d'année.
Tout à fait. Donc Dawak, ça va sortir en septembre. Donc c'est un jeu d'Alexandre Droit, qui, comme Nicolas Bourgoin, est un auteur de La Cale. Donc c'est des Lyonnais et des amis. Et en fait, Dawak, c'est un jeu très léger mais très très malin dans son exécution. C'est tout simple. En fait, on va lancer un dé. Le dé va nous indiquer si on doit faire un défi ou répondre à une question. Et ça va être des choses extrêmement variées, du type citer une fleur contenant un J, ou alors citer un film de Johnny Depp, mais ça peut être aussi monter sur le premier qui monte sur une chaise, ou le premier qui enlève sa chaussure qui la pose sur sa tête, ou le premier qui va attraper des objets, parce qu'en fait sur la table il va avoir 9 objets qui vont avoir des caractéristiques différentes. De temps en temps ça va être l'objet jaune ou l'objet bleu, mais de temps en temps ça va être un peu plus fin, donc ça va être celui qui a un œil, deux yeux ou des choses comme ça, ou alors attraper tout ce que vous voulez, c'est celui qui fait la construction la plus haute mais qui doit tenir, et là tout de suite ça se complique un petit peu. Donc j'ai oublié la question, c'est pas grave. Donc oui, Dawak, ça sort pour la fin d'année. C'est un jeu dans lequel on croit beaucoup. C'est un jeu qui est très fun et qui a comme force, en fait, qu'il a un gameplay qui est quasi immédiat. C'est vous lancez le dé, vous savez jouer, et vous vous prenez pas la tête et vous vous amusez simplement.
Donc c'est la collection Fun Game que je vois marquée en haut. Et du coup, donc tu en as d'autres. Colorium, c'est pareil, tu nous en parlais juste après, et donc Wixing qui rentre aussi dans cette gamme. Je vais prendre Colorium, puis après je reviendrai sur le positionnement de cette gamme de jeux un peu du coup vraiment familiaux et rapides.
Alors Color Gam, c'est un jeu de Yahtzee, en fait, comme son nom l'indique, mais avec des couleurs. Il a de ça un petit peu particulier que chaque dé va être différent. Il y a 6 dés dans le jeu, et sur un dé, il va avoir par exemple une face 6 jaune, et sur l'autre dé, la face 6, elle va être rouge, par exemple. Le jeu se passe avec une feuille de tâche. On va essayer d'avoir un maximum de points sur chaque catégorie. Et du coup, pour valider ces points, il faut remplir sa tâche. Donc, par exemple, la première tâche, c'est au bout du troisième lancé, il ne faut pas de face rouge. Une autre tâche, ça va être, il faut autant de dés bleus que de dés verts. Ou alors une couleur en 3 exemplaires, par exemple. Et manque de peau, si vous n'arrivez pas à faire votre tâche, bien sûr, comme dans un jeu d'IAC normal, vous devez barrer. à cela près que à chaque pôle de tâche, vous allez avoir une case qui s'appelle la case Coloriam, qui va être une case chance, qui va vous permettre de, sauvegarder votre score en fait dans une autre case. Mais pour arriver à faire ça, il faut que ce score-là soit supérieur à la précédente case Coloriam. Donc il y a un petit goût aussi de push your luck où on va se dire je vais essayer d'optimiser mon score, de faire mieux, d'aller plus haut. Et j'avais validé mon contrat au tour d'avant, ben là ma tâche elle est plus validée et je galère un petit peu. Donc c'est aussi du teasing, c'est un petit peu du genre allez vas-y fais-le machin, non vrai bon dur. Et ça reste un jeu de dés avec du hasard, mais d'un côté extrêmement fun et extrêmement léger.
Et sur cette boîte, il n'y a pas de nom d'auteur, donc ça fait partie des jeux créés par l'équipe Ravensburger.
Ah non du tout, donc c'est créé par Thomas Singh. C'est simplement que c'est un prototype et que celui-là j'ai pas mis le nom de l'auteur, et que comme Thomas Singh est le seul auteur allemand des quatre jeux qu'on sort cette année, je pense qu'il pouvait pas trop m'en vouloir. Donc Thomas, si tu m'écoutes, je suis désolé. Du kann das nicht verstehen, aber es ist schade.
Ok, bon bah tant mieux alors, donc toujours des auteurs. Et du coup, comment positionner 4 nouveaux jeux Ravensburger dans des formats que le public français n'est pas habitué à trouver, sur un marché en pleine expansion où il y a des tas de jeux sur cette gamme-là, hein, parce que c'est un marché porteur actuellement, comment tu vas réussir en fait à... Bon, en tout cas, t'es Ravensburger, tu vas me dire, peut-être que ça vient de là-dedans, mais c'est peut-être pas si simple que ça, non, par rapport à la grande distribution et tout, de dire, ok, on a 4 jeux, on y croit à mort, il faut que vous les rentriez quand même et que vous les vendiez comme des petits pains.
Alors déjà, il faut savoir que tous les jeux sont pas sur les mêmes circuits. Bien sûr, on va pas recommander le même jeu à une grande distribution qu'on va recommander à un spécialiste ou à un petit boutiquier. C'est pas du tout la même chose qu'on recommande. Donc effectivement, il y en a qui vont se retrouver sur tous les circuits. C'est notamment le cas de Dawak, auquel on croit beaucoup, à tel point qu'on va lui mettre une pub TV. Mais c'est effectivement un problème qu'on a eu quand on a conçu ces boîtes-là. On s'est posé la question de est-ce qu'on fait plusieurs références, est-ce qu'on change les choses et tout. Là après, on va dire que c'est le boulot de l'équipe commerciale et merge de gérer ça. Et j'atteins mon seuil de compétences pour pouvoir en parler.
Ok, c'est vrai, c'est encore une fois Ravensburger, c'est grand du coup. Chacun a son périmètre et du coup, ok. Merci pour ces présentations. Il y a un quatrième jeu qui n'y est pas sur le quatrième, c'est
Le quatrième, c'est Démoniac.
Ah, Démoniac, ouais. qui est en démo pour l'instant, qu'on pourra pas voir aujourd'hui, ok.
Tu l'as acheté ? Non, Démoniac, on en a parlé tout à l'heure, donc il est pas sur la table simplement parce qu'il est sur le stand et que j'ai pas fait plein de protos avec mes mimines. donc du coup, je vous invite à suivre les podcasts pour en savoir plus les prochaines fois. On vous en parlera plus en détail quand ça sortira en septembre, de toute façon.
Et Ravensburger France, du coup, on vous verra à Essen en octobre.
On sera là, bien sûr, on sera là. Les jeux seront pas en sortie officielle allemande, donc on sera plus discret que ce qui se passe à l'heure actuelle. Le gros problème qu'on a aussi avec ces jeux-là, c'est que c'est des jeux qui sont dépendants au langage, et Kessen, c'est quelque chose d'extrêmement international. Et c'est difficile de présenter des jeux comme ça sur un périmètre. On va trouver autant de l'allemand que du français, que l'hollandais ou du japonais. Donc c'est plus dur. On va essayer de faire un petit espace dans la mesure de nos moyens. C'est pas garanti. Simplement, ceux qui sont déjà allés à Essen le savent. Quand vous arrivez sur notre stand ou sur un autre, au bout d'un moment, vous prenez une boîte de jeu et vous asseyez par terre parce que c'est Essen et que vous avez envie de jouer, et que s'il n'y a pas de table, vous faites un peu avec les moyens du bord.
D'accord. Et par contre, une dernière question par rapport à la gamme. Donc, que du party game, on va dire, sans être péjoratif, hein, mais sur ce créneau-là. Et par contre, les jeux un peu plus joueurs qu'on a l'habitude de voir justement sur Ravensburger Allemagne, en France, alors première question, est-ce que vous cherchez à en développer? J'ai pas l'impression, en fait. Et du coup, deuxième question, c'est est-ce que des jeux comme Orongo, on va les voir arriver sur le marché français, ou est-ce que la politique reste la même là-dessus?
Alors, on va pas les développer parce que l'Allemagne fait ça très bien. Donc, on va dire chacun son domaine compétent. J'ai pas la prétention de marcher sur leur plate-bande, même si quand je vais régulièrement chez eux, ils me présentent les avancées du projet, je leur donne mon input, mon avis, et on discute autour de ça, et c'est toujours super intéressant de voir un projet dans lequel on n'est pas impliqué, mais pouvoir donner son avis, c'est vraiment sympa et c'est reposant surtout. Et les jeux type Orango en fait sont de toute façon disponibles en version déjà multilingue, donc le travail est fait. Donc de base, c'est ils sont disponibles par Oya à l'heure actuelle. Ouais.
Et parce qu'en fait, vous travaillez en relation avec Oya pour la distribution de ce type de jeu, parce qu'il y a, je vais revenir du coup sur l'histoire d'il y a trois, il y a deux ans, si je me trompe pas, c'était il y a deux ans, hein, qu'il y avait, on avait vu Strike, on avait vu Tino Topini et Indigo qui étaient portés à l'As d'Or, et c'était Oya qui était derrière pour la distribution. Ravensburger France, dans tout ça, vous étiez quand même quelque part.
On était quelque part, oui, parce que si vous ressortez les photos, vous verrez Laurent Cochet qui était dessus, qui est le directeur marketing de Ravensburger France. Donc oui, on était là, on discute avec Patrick en début d'année, lui nous dit ce qui va prendre chez Oya. Après, là encore, c'est une question de domaine de compétences, on n'avait pas les mêmes équipes à l'époque, et c'était sa partie à lui, on avait trouvé un partenaire, on était content de trouver quelqu'un qui fait ça, on est toujours content, donc du coup c'est la répartition de l'époque qui faisait que Oya gérait cette partie-là.
Ok, ouais, je pose la question parce qu'on n'est pas habitué, enfin t'imagines Ravensburger, une grosse structure, alors c'est pour ça que ça paraît bizarre de se dire tiens, il s'appuie sur un autre distributeur pour le marché français, pour certains jeux, pour un autre créneau. J'avais l'impression que c'était plutôt, enfin moi je me disais, eh ben, Ravensburger France, il croit pas dans les jeux de Ravensburger Allemagne, et du coup il laisse le champ libre à un autre distributeur. Donc tu me rassures, je me trompais.
Tout à fait. CF au début du podcast.
Ouais, justement, mais c'est intéressant parce que je pense que je suis pas le seul à avoir cette idée. Et, c'est intéressant de la casser. Comme quoi, il fallait qu'on se rende compte pour ça. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Non, du tout. Je vais essayer de profiter de Cannes un peu comme tout le monde. Donc, on va se revoir, je pense, un petit peu plus tard pour reparler des jeux, de l'évolution de la gamme. Puis voilà, j'espère qu'on aura des retours positifs et aussi enthousiastes que le tien.
Ouais, il n'y a pas de raison si les jeux sont bons, comme on dit. Non, ça dépend du public, mais ils auront forcément, on leur espère, en tout cas, on leur souhaite une bonne réussite, notamment donc d'AWAC. Ok, merci Jean-Baptiste.
Merci Jérémy, puis à la prochaine.